RMC, le grand oral des grandes gueules.
C'est Jacques-Charles Fonbonne qui est avec nous, le patron de la Société Protectrice des Animaux. Bonjour, monsieur Fonbonne.
Ah. Bonjour.
Bonjour. J'espère, vous êtes avec nous par Skype, j'espère que ça va tenir. Constat, où en est-on aujourd'hui, cet été? Est-ce que la situation est aussi dramatique que cela en ce qui concerne l'abandon des animaux?
Oui, la situation est extrêmement tendue. On a une année tout à fait particulière depuis le début de l'été. D'habitude, on est à saturation autour de 7 500 animaux fin juillet, début août. Cette année, on a été à saturation pratiquement depuis le 15 juin et avec un chiffre qui est supérieur à celui qu'on a malheureusement les autres années et qui est autour de 8 000 animaux abandonnés.
Comment l'expliquer ?
Alors, on l'explique par une très forte augmentation du nombre des chats, surtout des jeunes chats. On pense, enfin, on en est quasiment certain, que c'est l'absence de stérilisation au printemps 2020, au printemps 2021, de ce qu'on appelle les chats libres, c'est-à-dire que les chats que vous voyez dans les rues, que vous voyez dans les campagnes. Il y a un chiffre que je cite toujours parce qu'il est très représentatif. On dit qu'un couple de chats bien nourris et à peu près tranquilles peut en 4 ans donner jusqu'à 20 000 descendants. D'habitude, tous les ans, les associations locales, nous, la SPA, en lien avec les communes, nous faisons des stérilisations et puis ensuite on remet les animaux dans la nature. Avec le confinement, il n'y en a pas eu depuis 2 ans, on a une explosion du nombre des chats sur les 12 000 animaux que nous avons recueillis depuis le 1er mai. On a 2/3 de chats, on en a 9 000. Alors ce qui est intéressant dans cette année, au-delà de cette première caractéristique d'un engorgement de nos refuges de très rapide, on a eu une augmentation du nombre des chats de près d'un quart, 25%, ce que je vous disais à l'instant, mais corrélativement, on a eu une baisse du nombre des chiens de 24 ou 25%. Ce qui est curieux, c'est que le chien est un animal qui a eu forcément un maître. Comme je vous le disais, on a des chats dans la nature, on maîtrise absolument pas la prolifération et l'abandon. Les gens nous les amènent parce qu'ils les ont trouvés dans leur jardin, dans leur sous-sol. En revanche, le chien est un animal qui a eu un maître. On n'explique pas cette baisse énorme de 25% sur les chiens. Peut-être tout simplement le fait que les gens, nos concitoyens, sont moins partis en vacances, moins loin, donc dans des conditions qui font qu'on est moins tenté d'abandonner un animal. Mais c'est vraiment une baisse très importante et je dirais malheureusement inexplicable.
Malheureusement, c'est plutôt positif de savoir qu'il y a eu une baisse d'abandon de chiens de 25%.
Oui, alors effectivement, c'est positif, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'arrive pas à l'expliquer de façon logique. On aurait eu 2, 3, 4% de baisse. On peut se dire que finalement, notre discours, finalement, l'état d'esprit de nos concitoyens fait qu'on a une baisse régulière et que l'on abandonne moins les animaux, moins les chiens. Là, la baisse est tellement brutale qu'on n'a pas d'explication logique. Je pourrais dire oui, effectivement.
Ah, petit souci avec la ligne. Rappelons que les abandons d'animaux, c'est puni par la loi.
Ouais.
On a un souci avec votre ligne, Jacques-Charles Fonbonne. Pardon. C'est en train de couper, c'est bien dommage, on est en train de vous perdre, on va essayer de rétablir ça. Mais l'abandon sur la voie publique ou dans la nature, c'est classé comme un acte de cruauté. Par la loi, hein. Et c'est puni de 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Mais chaque année, on a 100 000 chiens et chats. Et c'est un chiffre qui est une moyenne. Hein. 100 000 chiens et chats qui sont abandonnés. Et le pic, c'est durant la période estivale.
C'est puni sévèrement par la loi, mais encore faut-il prendre la personne en flagrant délit d'abandon. C'est-à-dire qu'en règle générale, quelqu'un qui abandonne son chien, il ne va pas l'abandonner en pleine rue, sous les yeux de tous les témoins. Donc, si vous arrivez à choper une plaque d'immatriculation, moi, il m'est arrivé de voir quelqu'un qui avait un comportement étrange avec un chien. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir l'abandonner? Donc, j'ai stoppé mon véhicule. Bon, finalement, non. Il était en train de sortir son chien pour lui faire ses besoins. Mais c'était tellement étrange la façon dont il promenait ce chien. J'avais vraiment l'impression qu'il voulait le laisser auprès d'Anna. Et je me suis dit, je vais me garer. Et lui, je lui chope la plaque d'immatriculation et je le lâcherai pas. J'allais pas faire une course poursuite, mais en tout cas, c'est sûr, j'aurais récupéré les chiens et je prenais la plaque d'immatriculation. Mais là, c'est un cas, la plupart des gens abandonnent. Il y a certaines personnes qui ont le dernier élément de courage, je dirais, avec beaucoup de guillemets, hein, de venir à la SPA au moins déposer les chiens plutôt que de les laisser sur la voie publique. Mais effectivement, la loi, elle peut toujours être dure. Mais si on n'a pas la police et le flagrant délit pour attraper les gens qui font ça, eh ben on peut pas les mettre.
La bonne question quand même aujourd'hui à se poser, c'est on a quand même trop d'animaux domestiques. Je parle de la France puisque c'est ici que l'on va. Et je me faisais la réflexion l'autre jour. Maintenant, tu ne peux plus aller dans un restaurant sans qu'il y ait quelqu'un qui ait un chien au restaurant.
Alors, tu te fais fais du resto. Hein.
Oui,
il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller avec son chien.
Bah, écoute, moi, ces derniers temps, à chaque fois, il y avait un chien qui était là. Et chose que tu ne voyais quasiment pas avant, quoi. Il y en a tellement aujourd'hui que finalement, des commerçants et des restaurateurs ou autres sont obligés d'accepter parce que sinon ils perdent des clients. T'as de plus en plus de petits chiens aujourd'hui et des couples qui viennent au restaurant avec le petit chien ou le petit chat parce qu'on préfère l'avoir avec nous plutôt que de le laisser à la maison, quoi. Donc, faudra quand même se poser la question sur pourquoi est-ce qu'on a autant d'animaux, quoi. C'est peut-être le problème en réalité. Arrêtons d'avoir des animaux, quoi.
En réalité, moi, je pense que toute l'enquête qu'on fait, par exemple, qu'on demande à quelqu'un qui, par exemple, qui veut louer un appart à Paris et qu'on lui demande ses trois dernières fiches de paye, son contrat, sa dernière adresse, son rein, son foi. Je pense sincèrement que toutes ces questions-là qu'on pose par rapport à une maison, on devrait poser ça à tous ceux qui veulent avoir un chien.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on vérifie que la personne a les revenus nécessaires pour s'occuper d'un chien, que la personne a le logement adéquat où le chien peut s'épanouir.
Exactement.
En tout cas, on devrait vérifier tous ces paramètres-là avant de confier la responsabilité d'un chien. Il ne faut pas que ce soit le côté financier, pécunier qui a de la valeur, parce qu'on dit, oui, le chien, il vient d'un élevage, il coûte 1 200 €, 2 500 €, et donc c'est celui qui a le plus d'argent qui est capable de s'offrir un chien, et justement la personne, le concerné qui est à même de l'abandonner s'il n'est pas capable de l'amener à Monaco.
Il y a
Monaco.
Des associations, notamment les associations qui sont qui recueillent des chiens errants, par exemple à La Réunion, etc. Eux, ils sont hyper stricts sur leur façon de placer les chiens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une enquête, je peux vous dire que c'est une enquête, on vient chez vous, on regarde, c'est pas en 5 minutes. Hein. De même, la SPA ne peut pas faire une enquête, venir jusqu'à votre domicile, mais enfin, ils vous posent quand même beaucoup de questions, et on vient prendre un chien, oh tiens, celui-là il me plaît, je m'en vais. En revanche, la problématique, et ce sera bien qu'on en reparle avec Monsieur Fombot si on arrive
à voir. Il est là, au téléphone.
Il faut absolument interdire les animaleries, il faut absolument interdire les achats clandestins sur Internet, les Le Bon Coin et compagnie, où les gens vendent des chiens, et ça, la loi, elle ne va toujours pas assez loin. Il faut absolument, effectivement, des enquêtes très strictes quand on veut acheter un chien, et notamment aussi dans les élevages, parce que les élevages, ça pose un problème aussi, hein, les élevages de chiens, notamment un certain nombre de chiens très à la mode, les bulldogs, etc. C'est des chiens, c'est des races qu'on est en train de rendre hyper malade, hein, avec des grosses problématiques de santé. Bon, mais c'est la mode d'avoir un bulldog français. Donc ça, il faudrait effectivement qu'il y ait aussi vis-à-vis des éleveurs des choses beaucoup plus strictes sur la façon dont ils vendent les animaux, et qu'ils les vendent parfois effectivement des prix exorbitants à des gens qui n'ont pas les moyens.
Jacques-Charles Fombonne, d'accord avec ça ?
Oh, je suis plus que d'accord avec ça. C'est exactement, j'ai l'impression d'entendre des militants de mon association, et je vous en remercie.
Mais je suis donatrice à la SPA, monsieur.
Voilà, c'est absolument tous les points sur lesquels on se bat. L'animalerie, parce que effectivement l'animal est un bien, mais on ne veut pas qu'il y ait une marchandisation. La relation affective qu'on a avec un animal doit pas être une relation d'argent. Ce sont des produits d'appel dans les animaleries. La loi qui a été votée à l'Assemblée en janvier et qui passe au Sénat normalement en septembre prévoit cette interdiction sous un délai de 18 mois. La vente sur Internet, c'est encore pire, la vente sur Internet, parce que je pense que vos auditeurs situent pas forcément l'enjeu. C'est pas le petit chaton ou le petit chien de la portée qu'on n'a pas arrivé à placer parce que les voisines et la famille ne peut pas les prendre. C'est du véritable élevage organisé par des amateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui, dans leur garage, dans leur box, dans leur sous-sol, vont avoir 2 ou 3 chiennes ou des chattes allaitantes. Ils vont pouvoir avoir 10, 20, 30 animaux produits, parce que c'est vraiment des produits par an, avec un minimum de frais. C'est-à-dire qu'on va vous vendre un animal au cul du camion, avec des faux certificats de vaccins, des animaux qui ont été sevrés trop jeunes, parce que ça coûte cher de les garder longtemps, et qui vont avoir des problèmes de comportement.
C'est une catastrophe. Pour revenir sur ce que j'entendais, je suis désolé, je suis en vacances et ma liaison est très mauvaise, sur ce que vous disiez sur l'achat des animaux. Mmh. Effectivement, lorsque l'on a des gens qui viennent prendre un animal, on demande qu'ils viennent avec la famille, qu'ils viennent avec l'ensemble des animaux qu'ils auraient éventuellement déjà. On fait une présentation et surtout on leur fait remplir un questionnaire. On leur demande s'ils ont les moyens, s'ils ont un petit appartement, un château, de façon à les orienter sur un animal. Généralement, ils nous écoutent parce que j'ai du personnel et des bénévoles qui connaissent très bien les animaux. Mais on se réserve le droit, on n'est pas des marchands de chiens, on n'est pas des marchands de chats, on se réserve le droit de refuser l'adoption si la personne ne nous paraît pas remplir les conditions qui seront nécessaires à l'animal. Et puis ensuite, j'ai 700 enquêteurs qui vont venir dans les familles. Alors évidemment, ils préviennent, hein, c'est pas des descentes de police. Mais on vient voir post-adoption comment vit l'animal, dans quel état de santé il est, de façon à être certain que l'on a des conditions de vie qui vont dans le respect que l'on doit à l'animal. Et je crois que c'est le terme qu'il faut absolument marteler. Au-delà de toutes les sanctions, au-delà de toutes les campagnes de communication qui sont utiles, évidemment, l'effort que nous faisons à l'SPA, c'est celui de l'éducation. Oui. On devrait normalement, au mois de septembre, avec M. Blanquer, signer un protocole pour aller dans les écoles. Moi, je suis absolument convaincu, après 35 ans de gendarmerie, puisque c'était mon métier, que la sanction est très peu efficace, mais qu'en revanche, l'éducation des enfants tout petits, ça va nous faire une génération qui, dans 15 ans, 20 ans, aura un regard sur l'animal
plus responsable,
complètement différent d'une autre et qui sera extrêmement positif. Il n'y a qu'à voir comment réagissaient nos grands-parents vis-à-vis des animaux. On a quand même et heureusement très évolué dans ce domaine. Il faut que la génération suivante soit alertée sur la protection des animaux et ça marchera à ce moment-là très bien parce que ça viendra de leur façon d'être.
Merci Jacques-Charles Fonbonne, merci président de la SPA, merci d'avoir été avec nous et désolé pour les problèmes techniques.
Un grand point d'amélioration aussi et de progrès dans ce domaine, il faut absolument que dans le prochain quinquennat, on ait enfin un débat pour accorder une personnalité juridique aux animaux en fonction de leurs conditions de vie, animal d'élevage, animal sauvage, animal domestique. Il faut accorder une personnalité juridique aux animaux parce que pour l'instant, ils sont toujours...
Et avoir un secrétaire d'État à la condition animale, déjà, un ministre
Non, moi, je veux pas un ministre là. qui fasse joli dans le truc, quelque chose... Un ministre avec une réaction qui est la personnalité juridique des animaux parce que pour l'instant, ils restent des objets, ils restent des biens meubles. Donc il y a la personne, il y a l'objet et il doit y avoir l'animal au milieu. Et ça, c'est un grand combat et je n'entends aucun candidat, sinon la représentante du parti animaliste, porter cette question pour la prochaine élection.